100% raisin, carnet de dégustation par temps confiné. Épisode 5, le chant du monde. Je ne veux plus sortir. Il reste moins d'une semaine, mais je ne veux pas repasser dehors. Rester confiné ad vitam aeternam. Je savais bien que cela arriverait. Je sais que le premier mois est le plus dur, qu'il faut prendre de nouveaux repères, mettre en place de nouvelles habitudes et se couler dans un temps étiré, plus mou, plus lent. Au début du deuxième mois, on commence à apprécier, à goûter aux joies de l'entre-soi. Après 6 à 8 semaines, c'est foutu. Ce sera dur de revenir en arrière, rebrousser chemin, tout détricoter pour se rappeler le « c'était mieux avant » qui ne veut plus rien dire et dont on n'est même plus sûr à présent qu'il fut vrai un jour. Je sais très bien tout cela, ce n'est pas la première fois. Certes, ce confinement n'aura que peu duré, mais il a déjà commencé à m'engourdir, à m'attirer loin du rivage, et j'entends déjà les sirènes qui me pressent de ne jamais revoir Ithaque. Je compose donc avec une solitude habitée, colorée de mots et d'écriture. Je confine, sans contraintes et sans contact, seul à seul avec moi-même. C'est aussi ce face-à-face avec soi qui se joue à chaque dégustation, parce que personne ne peut nous souffler la bonne réponse et nous dire ce que l'on doit ressentir. Chacun ses impressions, son goût, sa sensibilité, son seuil de perception, son histoire personnelle et son éducation. Je suis chaque fois agacé lorsqu'on me presse de décrire un vin et que l'on me demande « Alors, ça sent quoi ?»« Ben, ça sent ce que tu veux. Ce que tu sens, en fait, je ne suis pas dans ta tête. » Théorie de l'esprit désagrégée par la force de l'empirique. Ainsi donc, lorsque je débute une dégustation, je m'y suis préparé et je ne viens avec rien d'autre que mon carnet, mon palais et mes souvenirs. Toujours le même cérémonial et les mêmes gestes, les verres toujours dans le même ordre, de la gauche vers la droite, alignés à 3 ou 4. Le crachoir du côté droit, pas trop près, pas trop loin. Quand j'entre dans la pièce, je découvre devant moi, posé sur une table, des dizaines voire des centaines de bouteilles qui m'attendent, mises à température et anonymées par des chaussettes ou du papier pour ne pas laisser percevoir leur provenance. La séance est studieuse. Une heure ou deux, une matinée ou une journée entière. La concentration est indispensable et du rythme pour que les échantillons, nom donnés dans notre jargon aux bouteilles soumises à jugement, s'enchaînent sans temps mort, sans ennui et sans hésitation. Devoir regoûter plusieurs fois le même vin, et c'est la sortie de route assurée, la porte ouverte au doute, avec en ligne de mire un décrochage certain, la perte fatale de repères et la hantise d'avoir mal goûté. Il faut aller sans hésiter, catégoriser aux premières secondes, conforter aux suivantes, noter son commentaire, justifier les défauts, louer les qualités. Trop de bois, vin de bûcheron, acétate, volatile, brette, fluide, tanin sec, bouchonné, on a le double s'il vous plaît. Manque de fond, linéaire, ni vice ni vertu, janséniste, inexpressif, chiant. Et bien sûr s'enthousiasmer au détour d'un éclat. Un nez de dingue, grand vin, longiligne, racé, tanin noble, blanc d'élan, final mentholé, la classe absolue, cistercien, la nef de la cathédrale de Chartres, les colonnes du Bernin, baroque passionnant, longueur magique, nuances infinies, superposition des formes, abscisses et ordonnées. Il est difficile de traduire en mots une sensation et surtout de la transcrire pour un autre. Si je dis fraise, suis-je sûr que tu comprendras, que tu éprouveras la même saveur que moi? Quand je dis rouge, vois-tu exactement le même rouge que moi, la même profondeur et le même éclat de sa teinte? Rien n'est moins sûr. Le langage est le plus court chemin, il n'est sans doute pas le plus exact. J'avais, pour mieux comprendre le fonctionnement du goût et la question de sa subjectivité, interviewé un neurobiologiste spécialiste de l'olfaction, le professeur Patrick MacLeod. Il m'avait expliqué les mécanismes fondamentaux du goût, ou plutôt des goûts, car il existe autant de perceptions qu'il y a de dégustateurs. Non seulement tous les palais ne se valent pas, mais surtout, il n'existe pas de personne sur Terre qui possède le même nez ni ne sente la même chose. Telle est la réalité biologique. Chaque individu est unique du point de vue génétique, son expérience n'est donc pas transposable et toutes les particularités gustatives perçues ne valent que pour un être donné. Mon expérience olfactive n'est donc pas transférable par les mots à une autre personne, par une quelconque forme d'apprentissage. Le professeur MacLeod appuya sa démonstration de quelques chiffres. Deux individus ont 50% de gènes différents l'un de l'autre. Nous possédons tous 347 gènes pour l'olfaction, 4 pour les couleurs et une bonne centaine pour le goût. La combinaison des gènes implique ainsi des images sensorielles propres à chacun. Comment donc fonctionne ce processus complexe de l'olfaction et comment l'odeur et la saveur nous parviennent-elles? C'est une mécanique de précision qui se met en route chaque fois que nous ressentons, consciemment ou pas. Il y a d'abord des stimuli extérieurs, que ce soit la lumière, les sons, les molécules odorantes, qui provoquent dans nos cellules sensorielles des impulsions électriques qui transitent par des fibres nerveuses jusqu'au cerveau. C'est là que nos milliards de neurones réorganisent l'information brute en plusieurs images. Ces images formées dans chaque zone du cerveau, par exemple les odeurs dans le bulbe olfactif, les goûts dans le bulbe rachidien, convergent dans le cortex orbitofrontal où s'agrègent et se réunissent des informations provenant d'autres parties du cerveau, comme la vision ou l'audition par exemple, pour créer au final une image unique. Cette image unique se caractérise par une forme que notre cerveau reconnaît. La mémoire y associe des mots, des souvenirs, un plaisir que l'on a eu. Notre perception sensorielle n'est donc complète que si elle est verbalisée. C'est le langage qui la rend consciente. Cependant, si le langage permet d'établir un code commun pour communiquer, il reste insuffisant. Car pour le goût, il n'existe pas d'observateur standard qui représenterait la moyenne des goûts des individus. Il est donc impossible de décrire pour les autres ce que nous ressentons personnellement. Quant aux fameuses quatre saveurs dont on nous abreuve depuis l'enfance, elles sont totalement erronées. Il n'y a aucune localisation précise du sucré, du salé, de l'acide et de l'amer sur la langue. On sent tout, partout, avec une variation quantitative de la sensibilité. Et réduire le goût à ces quatre saveurs uniques est de surcroît parfaitement réducteur et incorrect. Voici en substance ce que le passionnant professeur m'avait enseigné au détour de cette interview, dans les salons conçus de l'hôtel Raphaël. Avec en conclusion, lapidaire et indiscutable, chacun a son goût propre, il est impossible de savoir ce que sent l'autre. Il n'y a donc personne qui puisse se mettre à la place d'un autre, jamais, et ceux qui voudraient m'en persuader font ici fausse route. Pour ressentir ces images et voir la forme du vin sur laquelle viennent s'adjoindre ces différentes saveurs, forcément volatiles, changeantes et éphémères, il faut de la concentration et procéder par analogie. Avoir suffisamment d'expérience, c'est-à-dire suffisamment d'images dans la tête pour faire le rapprochement avec une nouvelle. Comme pour toute œuvre d'art, il faut étalonner, comparer les styles, les écoles, juger à l'aune de son histoire et de sa sensibilité, en dehors de soi tout en y puisant le terreau propice à formuler un avis. Il faut donc un silence intérieur, un recueillement sacerdotal, mais aussi un entraînement et une discipline qui aident à cultiver cette faculté à l'abstraction et à l'écoute de soi. J'ai la chance de voir en couleur et de façon architecturée. Chaque vin que je goûte superpose ainsi une forme géométrique et une couleur. Il en va de même pour catégoriser les millésimes. Je ne me souviens pas nécessairement des saveurs. Je me souviens de l'impression du vin, au sens photographique du terme, avec sa texture, son relief, son épaisseur. Dans un article publié dans le journal Le Monde il y a quelques semaines, on pouvait lire que le ralentissement de nos vies et de notre économie avait laissé place au silence, une mise en sourdine du monde. Pas seulement moins de bruit, qui laisse dans les villes se détacher le chant des oiseaux, et dans les campagnes bourdonner au vent le tintement des feuillages, mais aussi moins de vibrations et d'interférences. Et que la chape de silence imposée sur le monde mis sous cloche laissait ainsi monter une autre clameur, celle de la terre. Notre confinement, écrivait l'auteur de l'article, a eu pour effet de mettre en sourdine notre brouhaha quotidien et de nous donner à entendre les vibrations de la terre, jusque-là imperceptibles par nos oreilles. Les vibrations de la terre. Ce renversement sonore fut quasi instantané, dès le confinement annoncé et appliqué, et cela dans toutes les villes ou les pays où il était adopté. Notre capitale n'échappait bien sûr pas à la règle, et si je m'étais aperçu et réjoui, dès les premiers jours, de cette chute des décibels et du calme ouaté des rues, je n'avais pas tout à fait mesuré l'effet de balancier de ce phénomène. Car quand le son de nos agitations se taisait, dans le même temps, le bruit de la terre s'élevait, comme sorti de sa torpeur, ou plutôt détaché de tous les autres. Comme un enregistrement sonore épuré de ces bruits parasites, nous étions devenus ces parasites évacués, laissant de nouveau toute sa place à la nature et à l'ordre virginal du monde. Nous dehors, rayés du monde, balayés comme de simples vies secondaires, non essentielles, la terre reprenait ses droits et tout son espace. Un espace sans nous, qui existait en dehors de nous, comme finalement, à l'échelle de l'univers, cela avait toujours été. Car notre humanité ne représente rien, même pas un claquement de doigts, à l'aune des 13,5 milliards d'années écoulées depuis le point zéro, peut-être 10 secondes si on devait la rapporter à une échelle du temps en adéquation avec la réalité. Nous ne sommes donc qu'un fond sonore, une musique lancinante et insistante qui s'accroche à la terre, mais dont elle n'a nullement besoin. Il y a dans la dégustation ce même besoin de s'affranchir de nos propres bruits de fond pour sonder la véritable musique du vin. Ce sont nos a priori, des jugements hâtifs, des présupposés qui faussent notre jugement et qui nous empêchent de descendre vers lui, de l'appréhender dans toute sa vérité parce qu'on lui colle nos propres intentions. Cette baisse du bruit sismique que l'on observe en ces temps confinés nous enseigne qu'il faut savoir faire silence. Ce bruit de fond qui remonte des entrailles de la terre n'est pas perçu par les sismologues comme une forme de pollution, au contraire, il renferme les soubresauts de la terre. Dans chaque grand vin aussi demeurent les soubresauts de la terre, de son sol et de son lieu. S'astreindre à la dégustation, car c'est une astreinte, parfois quotidienne, c'est savoir reconnaître que le vin existe en dehors de nous, de toute conscience et de tout argumentaire personnel. Pour bien critiquer, il faut apprendre à aimer, se détacher de son goût personnel et reconnaître le grand vin lorsqu'il apparaît. À moins de cela, on reste à la surface des choses, on ne perçoit que les bruits du macadam, les ondes de choc de surface, jamais le chant du monde. Nous devons dépasser le seuil de notre perception, capter les pulsations invisibles et élargir notre sensibilité en mode infra et ultrason. Le champ auditif humain se situe entre 20 et 20 000 Hz. Cela ne veut pas dire qu'au-delà et en deçà, les sons n'existent pas. Ils sont juste inaudibles à nos oreilles. Il en va de même pour le vin. Nous devons apprendre et nous astreindre à capter l'inaudible, révéler ce qui est invisible au premier abord. Lorsque, pour la première fois, j'ai dégusté Château Margaux et que je voyais mes collègues plus expérimentés s'extasier de sa race et de son caractère, j'avoue n'avoir pas trop bien compris d'abord. Je trouvais cela ferme, carré, monolithe, j'en avais fait le tour. Il me fallut y revenir plusieurs fois, me rendre au domaine, comprendre, goûter encore et percevoir enfin que cette allure ferme était le plus beau rayonnement du Cabernet lorsqu'il est parfaitement mûr. Et puis un jour, alors que je goûtais le millésime 2009 encore en élevage, il y eut cette lumière, un éclat sensible qui traversait le vin et qui lui donnait sa forme véritable, et j'ai réalisé que ce 2009 tout juste naissant, avec son port altier et sa finale interminable, était le chant du monde qui montait jusqu'à moi.